bien, plus bien, entre les deux, ils ont une position de. On met tantôt le projecteur sur des similitudes, tantôt ce que tu as fait largement sur les spécificités. On voit qu'il faudrait que les maths, la didactique des mathématiques, qui a beaucoup constitué de certaine manière une sorte de modèle pensé comme généralisable et dont on peut emprunter des concepts dans d'autres didactiques, la perspective que souligne. Au contraire, Jean-Louis, c'est qu'elle est peut-être au contraire un modèle très spécifique et que l'apportation des concepts a été soit impossible pour ce que tu considérais, en tout cas, utilisé, mais nécessairement avec d'autres, d'autres cadres conceptuels de réception et de reproblématisation. Et puis le deuxième point, et ça c'est plus un problème de l'élaboration scientifique de la didactique, c'est le problème du statut et de la valeur d'usage, parce que la question que vous posez n'est pas la perspective critique que mettait d'emblée dénaturalisée, défigée, etc. Yves Chevalard ce matin, mais plutôt la perspective, c'est non pas d'être contre, mais d'être force de proposition en appelant du côté des négociations, des prises de responsabilité par rapport aux propositions d'institution. Alors voilà, alors la parole est à Yves Chevalard et puis à la salle.
Alors, il y a eu beaucoup de choses dites hein, des deux intervenants, de la part des deux intervenants. Moi, je peux faire ponctuer quelques points. Bon, simplement pour que, évidemment, les choses soient claires, moi, je n'adhère pas à l'idée que ça n'est pas généralisable. Non pas que ça rende compte de tout, mais qu'on rencontre la même généricité de spécificité qu'ailleurs. Par exemple, là encore, la naturalisation nous cache beaucoup de choses à propos des types d'objets, de leur nombre, etc. Je pense qu'on pourrait beaucoup discuter là-dessus. Je sais bien qu'il y a un émiettement de l'univers objectal dans les sciences biologiques, dans certaines sciences biologiques et chimiques. Ça n'est pas le cas dans tous les domaines, en l'espèce. Moi, je suis très réticent, je l'ai dit ce matin, mais à cette idée de nous, on a un ethnos qui n'est pas comme le vôtre, nous, on n'est pas pareil que vous, et on ne peut pas se comparer, et on peut à la rigueur faire des essais, etc. Ça, c'est de ça qu'on a pâti, et je ne sais pas à quoi Jean-Louis fait allusion hein, à propos des coups qu'il aurait reçus, mais ce qui est vrai, c'est que s'il y a eu de l'incommunication, moi, j'y vois deux raisons, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est que nous étions dans des ethnos différents.
Des quoi ?
Des ethnos.
C'est-à-dire ?
Des ethnies, des tribus, des clans. On n'avait pas communiqué. Comme dans certains villages, on ne parle pas aux gens de la famille voisine.
Il y a des publications, donc on a regardé les bases, qui s'écrit, c'est facile. Voilà.
Donc, il y a quand même une raison forte, attention. Il y a une raison forte. Quand quelqu'un qui osait. Qu'est-ce que ça veut dire quand même de communiquer ? On communique à propos d'objets mathématiques, d'objets gymniques, d'objets physiques. Mais si je parle d'un objet gymnique, aussitôt on me dit, je regarde Daniel, on me dit, tu n'as pas le droit, tu n'es pas légitime. Parce que je n'ai pas la carte d'identité de l'ethnie, ça ne va pas. Or, il y avait ce climat de fait dont on tirait parti, dont on tirait profit. Par exemple, être agrégé de maths, c'était une bonne carte de visite pour faire taire les gens. Hein. D'accord. Et on en a usé et abusé. Et puis, être agrégé de physique, ça faisait taire, etc., etc. Bon, c'est-à-dire qu'on a utilisé quand même des facteurs halogènes par rapport aux communautés scientifiques naissantes. Hein, c'est-à-dire qu'on trouvait tout fait dans le vaste monde établi, institutionnalisé. Et alors ça, c'est la mauvaise raison. Si je puis dire, c'est que quand on a un projet de développement, on ne doit pas trop regarder ailleurs que son projet. Et ça peut durer 20 ans, malheureusement, à l'échelle d'une vie humaine, c'est long. Mais à l'échelle du développement de quelque chose, c'est pour ça que moi, j'ai très peu ferraillé avec d'autres chercheurs, qui pensaient que je les ignorais. Et je pensais aussi qu'il eût été injuste. C'est-à-dire que ça a eu deux défauts. Injuste de deux façons. Injuste au sens de la justice et injuste au sens de la justesse. Tu vois, j'ai par exemple, il y a une publication que je peux citer, il y a Raymond Duval ici, que j'ai co-signé avec Marianne Abosque, tu sais, sur les, où il y a une note sur ses travaux. On va dire, j'étais hostile à mettre une note sur ses travaux, parce que je savais que ça ne rendait pas, qu'on pouvait avoir des débats, bien sûr, mais qu'on on ne réglait pas un débat par une note infrapaginale, même un peu long. Et bien entendu, Raymond n'était pas d'accord. Et à quoi ça rime? À quoi ça rime? Ça ne veut pas dire qu'on ignore ses travaux. Ça veut dire qu'on a une ligne de développement. Ça ne veut pas dire qu'on l'impose à qui que ce soit. Les gens se regardent plus qu'on ne croit, en général. Et ça, c'est pour moi une bonne raison. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je disais, quand vous montez un groupe, il y a un problème d'écologie, figurez-vous. Il faut le protéger. Si vous faites venir dans votre groupe un outsider qui est puissant, qui a de l'autorité, il peut en un après-midi vous casser le groupe. C'est-à-dire ne rien apporter et même détruire les germes que vous avez essayé de faire démarrer. Donc il faut le protéger. Au fond, on peut être écologiste en la matière comme en d'autres matières. Donc là, moi, ça ne m'effraie pas. Évidemment, on dit « Ah, on n'a pas communiqué, etc. » Mais on avait chacun notre labeur. Je crois que le chercheur, il doit tracer son sillon, il doit avoir un peu la tête baissée. Bien entendu, de temps en temps, il regarde de côté, il regarde furtivement, puis il voit quelque chose qui l'intéresse, il va voir un peu plus. Mais ferrailler, moi, ne m'a jamais trop intéressé. Au fond, si l'œuvre engagée est porteuse de création et d'avenir, ça va se savoir, et c'est pas les gens d'une même génération qui pourront en profiter, si je puis dire.
N'empêche, pour revenir sur le point qui a fait la différence entre les deux exposés d'Alain et de Jean-Louis, sur la question de... Parce qu'on peut discuter sur qu'est-ce qui est pareil et qu'est-ce qui n'est pas pareil en même temps. C'est qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre. Or, est-ce que le fait que les maths sont dans cette logique d'enchaînement d'années, enfin, de curriculum construit dans lesquels les maillons ne sont pas tellement sautables... alors que Jean-Louis insiste sur l'aspect conjoncturel finalement et l'extraordinaire variabilité le statut des disciplines aussi à l'intérieur même des curriculums qui fait que à partir des années 70 les maths sont quand même une des deux disciplines qui fait la réussite ou l'échec scolaire et le redoublement dans les années 70 au moment où vous êtes en train de construire les choses, c'est-à-dire le redoublement ou pas redoublement. Les sciences nat ou la physique, beaucoup moins, dans le fait de ces statuts différents du poids des disciplines, hein, ne constituent-elles pas des différences à prendre en compte, quelles que soient par ailleurs le même,
hein. Oui, mais attends, alors là, moi, je suis bien d'accord qu'il y a des différences. Par exemple, les mathématiques, après, ça a été le français, vous savez, le collège qui a dominé. Mm-hmm. C'est le français qui a dominé, qui s'est imposé comme verdict, au fond, hein, enfin, émetteur de verdict sur les élèves plus que les maths. Au bout de quelques années et assez vite. Bon. En EPS, par exemple, il n'y a pas évidemment tout à fait ce même problème. Il y a des problèmes d'écologie scolaire, des disciplines, c'est entendu, mais ils ne sont pas les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas les penser avec un même ensemble de concepts. Ça, c'est autre chose. Maintenant, là où je tique un petit peu, c'est quand Jean-Louis nous dit ça se remanie beaucoup, ça change, etc. Dans son discours, moi j'ai entendu d'abord, un petit effroi, parce que moi, je n'ai jamais travaillé dans ces commissions noosphériennes, là, qui me connaissent si bien, où on voit des gens dire ce que le reste du monde va faire. Je me souviens d'un collègue sino-américain qui, après la chute de la bande des quatre, qui désignait comme ça, en Chine, c'est-à-dire à 5, en incluant la femme de Mao, avait accepté de revenir en Chine pour faire des programmes. Et il me disait, en privé, à l'époque, il n'y avait pas de traitement de texte, quand j'écris sur une feuille de papier un item de programme, j'écris pour 80 millions d'enfants. Et c'est terrible. C'est terrible. parce que ça engage. Moi, tout seul, j'ai beau être un grand mathématicien, bon, je ne suis que ça. Alors, je me souviens, après cette conversation, il y a eu sa conférence publique, plénière et tout, et il disait, nous avons travaillé avec des professeurs de mathématiques de l'ensemble de la Chine. Enfin, et en privé, il m'avait dit, on a lancé un appel à tous les profs de maths, il y en a 25 qui ont répondu. En réalité, c'était ça. Alors, moi, j'avoue que ces manières de faire, par exemple, on l'a encore vu avec le socle commun, bon, ce sont des manières, à mon avis, qu'il faut dépasser. C'est pas en mettant des penseurs, des sages, des experts ensemble, c'est en mettant des enquêteurs sur les problèmes qui assaillent les gens. Alors, les gens, ça peut être des chercheurs pointus, ça peut être des enfants de 6 ans, dans tel ou tel contexte de vie et d'activité, etc. Autrement dit, moi, ce que je voudrais voir, c'est... Alors, à ce moment-là, évidemment, quand on a quelque chose qui est tiré, par exemple, par le renouvellement des sciences ou techniques, si ça change beaucoup, ça va changer beaucoup, puisqu'on n'a que cette articulation, cet ancrage, ce qui me paraît délirant. Qu'il y ait des compatibilités, c'est la théorie de la transfusion didactique qu'il avait énoncée, qu'il y ait des compatibilités à rechercher, que la distance ne soit pas trop grande, oui. Mais ça me paraît délirant de ne regarder que cet aspect-là. En mathématiques, il y a eu la grande rupture des maths modernes, qui a été quand même terrible du point de vue en tant que rupture. Alors après, ça s'est stabilisé, on est revenu un peu en arrière. Je vous rappelle que pour ceux qui n'auraient pas vécu cette période, que pendant plusieurs années, il n'y avait plus la notion d'angle au collège. La notion d'angle avait disparu. Car comme vous savez, enfin vous pouvez le savoir, on peut faire de la géométrie sans parler jamais d'angle. D'autant qu'il y avait des problèmes éminents sur la mesure des angles, etc. Problèmes difficiles d'analyse, etc., etc. Par conséquent, là il y avait, on se rapprochait du savoir savant, sans doute en payant un prix trop fort. La négociation a été, à mon avis, mal menée. Alors, moi, ce que je préconise aujourd'hui, c'est pas d'aller chercher ça dans la tête des experts, qui sont experts de quoi ? Comment on fait pour savoir si des gens ont un problème ? On ne va pas les interroger, même. Il faut faire une clinique des problèmes qui peuvent relever où un ingrédient, un composant mathématique va être un savoir utile à la résolution du problème. Les gens ne peuvent pas le savoir. C'est comme quand on est malade, c'est pas le patient qui va dire « Ah, je souffre de ça », il va dire des symptômes, on va entendre ces symptômes. On n'a pas d'appareil pour poser un diagnostic aujourd'hui, si on fait la comparaison. Voilà le problème que je voudrais souligner.
D'accord. Tu veux reprendre la parole, Jean-Louis ?
Non, sinon que je considère que ça ne s'adresse pas à ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit ça. Il y a un problème de généralisation dans ce que nous présentons qui est tout à fait fondamental et qui relève d'une éthique, soit de la recherche, soit de la conceptualisation. Tout ce que tu dis est pris, exemplifié sur des mathématiques. Ce qui s'est passé dans les commissions de mathématiques, que je connais aussi, j'ai vu, je n'ai pas du tout... cette expérience-là.
Par exemple, dans le socle commun de connaissances récents ou un peu avant dans les thèmes de convergence.
On va travailler sur le socle commun, je m'en souviens bien.
Non, mais d'accord.
Non, mais attends.
Est-ce qu'on n'a pas réuni des commissions de gens qui se disaient experts, qui avaient un savoir a priori sur les débats?
C'est précisément ces experts qui sont incapables de problématiser. Ils ont un avis.
Bien sûr.
Et ça, je le réduis totalement.
Est-ce qu'on a étudié objectivement la nature des besoins de connaissances dans différents secteurs de la vie, à différents âges, etc. C'est quand même ça le problème majeur, mais en général, on a court-circuité cette difficulté, qui est quand même la difficulté essentielle. Et c'est pour ça qu'on a des savoirs inutilisés, je reprends mes termes, à l'école de manière pléthorique, et que les savoirs qu'on pourrait penser utiles viennent faire un cordon autour sous la forme des éducations. On se dit, oui, finalement, il faut leur dire des choses sur les produits, les addictions, mettons, etc. Mais ça, il n'y a aucun lieu où les experts aient dit qu'il fallait savoir des choses sur les addictions quand on avait 13 ans. Bon. Donc, je pense que ce système de développement me paraît aujourd'hui condamnable. Je ne condamne pas ceux qui l'ont fait, mais je pense qu'il est stérile et même humaine à un échec de l'action qui devrait être celle de l'école. C'est ça que je disais.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser d'autres questions? Moi, j'ai encore des questions. Mais
je... Oui, non, je pense que si on veut discuter sur les... sur les buts, l'utilité des différents domaines que les élèves rencontrent dans leur cursus scolaire, on n'est pas complètement démunis d'un côté, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été produites sur les 30 ou 40 dernières années dans un certain nombre de domaines. Et un peu paradoxalement, il y en a eu beaucoup plus de publiées, de produites dans le champ de la biologie et des questions nouvelles, dans le champ des sciences physiques, qu'il n'y en a eu en mathématiques. Parce que les travaux qui ont eu lieu en mathématiques, qui ne sont pas nombreux sur que font les gens, non pas les enfants, les gens dans la vie, en termes de mathématiques, ça s'avère extraordinairement difficile à aller chercher. Il y a peu de travaux sur le domaine, il y en a très peu, et il y en a toujours très peu, et il y a très peu de didacticiens qui s'intéressent à aller sur des terrains de travail professionnel, de travail, pour regarder quelles sont les mathématiques qui interviennent quelque part dans le domaine. Il y a eu un bouquin publié dans les années, je ne sais plus, 94, je crois, le rassemblement de points de bilan international qui montre que c'est difficile, que c'est un travail de recherche à part entière qui est minoré au point de vue valeur. Les gens qui sont engagés là-dedans, on a des collègues allemands qui ont fait, Stresser, qui a fait un très bon travail, qui a fini par faire autre chose parce qu'il ne se faisait pas reconnaître sur le plan institutionnel, parce que où est-ce qu'on va regarder ça? Ben, sur des domaines, évidemment on ne va pas les regarder les ingénieurs de très haut niveau, parce que cela on sait qu'ils se servent des maths, donc on va regarder les métiers aussi, on sait qu'ils s'en servent un peu quand même, un peu au-delà de la règle de 3 quand même, l'analyse un petit chouïa. Ce qu'on va regarder, c'est les métiers de grande gamme, de tout venant, qui ne sont pas valorisables sur le plan de quelles mathématiques on fait dedans. Donc il y a très peu de gens qui sont allés voir ça. Et je crois que tant qu'on ne va pas regarder de ce point de vue-là, on peut d'abord faut encourager des gens à aller regarder ça. C'est difficile parce qu'il faut payer le prix de comprendre les métiers, de comprendre le travail des gens, et pas seulement les mathématiques ou les concepts physiques qu'ils mettent en œuvre. Et là, on a un déficit qui est absolument considérable. Et le problème, c'est qu'à vouloir aller un peu vite sur on fait des choses inutiles, à quoi ça sert, etc., on peut enlever des intermédiaires dans l'éducation qui s'avèrent à un moment donné une catastrophe extrêmement difficile à récupérer. Parce que les futurs enseignants qu'on aura formés, eh ben, il y aura la faille. Déjà les failles des gens qui, au niveau des représentations géométriques, étaient assez lamentables et qui n'avaient pas la moindre idée de ce qu'était une ellipse, ben, il y a des domaines techniques dans lesquels c'est extrêmement ennuyeux. Et donc là, le problème de la continuité sur d'une génération à l'autre, il faut être extraordinairement prudent tant qu'on n'a pas des bases un peu plus solides que ce qu'on a actuellement. Et en particulier, il y a un paradoxe, c'est que ce qui est visible et ce qui est utilisé tout le temps, c'est effectivement une petite tranche de la connaissance théorique, on va dire, parce que ça concerne aussi la physique. Le problème, c'est que toutes les situations incidentelles, elles font appel à un truc avec un saut de connaissances nécessaire, et que les gens qui ont affaire aux situations incidentelles, ben c'est les gens qui sont en train de traiter des situations de routine. Et que quand la routine se casse la gueule, c'est eux qui l'ont en face d'eux. Et ça, c'est un gros paradoxe. Et si on regarde juste les situations de routine, on est à côté de la plaque. Et je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Je trouve que ce qui avait été fait sur les transpositions de pratiques et les problèmes de transposition de pratiques, que ce soit en informatique ou en physique, les gens avaient été extrêmement prudents. Et je crois que faudrait
je voudrais saisir pour reprendre sur un point qui me paraît évidemment, je suis d'accord sur la prudence, sur le fait que justement, il y a des phénomènes écologiques qui se produisent. On supprime quelque chose qui a l'air de servir à rien, et on voit tout à coup qu'il servait à quelque chose, et que c'est quelque chose où on ne peut pas le prendre en charge autrement. Sur ce schéma abstrait, général, je suis d'accord. Cela dit, il y a aussi un autre aspect. Il y a le fait que nous ne sommes pas, nous, qui avons... Alors, Janine, bon, appris les coniques au lycée, enfin en terminale, l'ellipse peut-être avant, je ne sais plus, mais enfin on l'a étudié en terminale, n'est-ce pas? Ou je vais citer un autre cas plus élémentaire. Des collègues physiciens me disent, à un moment, ils doivent faire de l'optique géométrique. En optique géométrique, traditionnellement, on utilise ce qu'on appelle aussi traditionnellement les relations métriques dans le triangle, rectangle, ou dans le triangle. Or, ils ne savent même plus ce que c'est. Bon, alors, voici ma réponse. On n'est pas obligé d'apprendre l'ellipse si on en a nul besoin après, lorsqu'on est en terminale. On peut l'apprendre lorsque, ingénieur ou dans tel domaine, on a besoin d'économie. C'est le problème. Il n'y a pas un ordre naturel fixe des connaissances. Les relations métriques, quand vous avez des outils, l'outil vectoriel par exemple, qui n'était pas construit quand moi j'étais évidemment au collège où on apprenait les relations métriques dans le triangle, eh bien, on peut les apprendre quand on fait le jour où on fait de l'optique géométrique. Simplement, les cursus sont rigides, et je voudrais insister sur un fait. La notion d'élément des savoirs, d'élémentation des savoirs, est une notion qui a été mise en avant notamment par la Révolution française, même si elle est bien plus ancienne. Elle a été remise en avant par les fous des savoirs à la Finkielkraut et compagnie, enfin, quelques auteurs de meilleurs mots quand même aussi, que je ne citerai pas, enfin, si Catherine Kinsler, par exemple, ou Charles Coutel, comment ? Voilà, dont j'aime assez les écrits, disons. Bon, cela dit, il y a une notion beaucoup plus importante que l'élémentation, c'est la réélémentation. Il n'y a pas une élémentation naturelle des mathématiques élémentaires, justement. Il y a une réélémentation, et c'est ça qui peut nous sauver. C'est que si je n'ai pas besoin, par exemple, peut-être n'ai-je besoin, dans le secteur où je travaille, que de certaines propriétés tangentielles de l'ellipse. C'est assez c'est subtil. Mais je n'ai peut-être pas besoin de beaucoup d'autres choses sur les coniques. Alors, il faut voir les problèmes et réélémenter les cursus, c'est-à-dire définir les éléments qui doivent s'enchaîner, mais il n'y a pas un ordre naturel. Heureusement que ça a été fait, parce que dans beaucoup de domaines d'études, où par exemple on a besoin de maths ou de physique, je songe aux gens qui font de la biologie et qui ont besoin de physique et de chimie, et souvent, heureusement que les physiciens et chimistes patentés ne vont pas voir. Et ça, cette espèce d'ethnicisme dont je parlais, j'ai des témoignages qui me convainquent que ça monte jusqu'au plus haut niveau du fond de la recherche. J'ai encore entendu quelqu'un dans un laboratoire de pointe me dire il y a quelques semaines, telle collègue, elle est de formation biologiste, mais elle préfère écrire des choses plutôt la partie physique de nos articles, parce qu'elle se sent plus à l'aise maintenant. Et elle a peur d'être attaquée quand elle écrit de la biologie. Vous voyez ? Autrement dit, il y a une espèce de langage de la tribu qui est intolérant au possible. Donc moi, je redis, la réélémentation, c'est pas grave qu'on n'ait pas appris telle chose à tel moment, enfin. Moi, j'ai reçu des agrégés de maths qui, pendant longtemps, ne savaient pas, par exemple, des choses qu'on apprenait pour le brevet élémentaire d'il y a un siècle, sur les fractions décimales. Ils n'avaient jamais entendu parler. Ça ne veut pas dire que en 10 minutes, on ne puisse pas les mettre au courant. Mais si ces 10 minutes n'adviennent pas, ils peuvent rester 2 siècles encore, s'ils vivent 2 siècles encore, sans le savoir. Il n'y a rien de spontané. Donc là, moi, je plaide pour l'assomption collective des besoins à travers la construction de cursus adaptés. Alors, je veux bien qu'on ait fait mieux dans maths, dans d'autres secteurs. Je suis quand même un peu dubitatif parce que la tendance expertocratique dans nos sociétés est vive.
Ma question, c'est est-ce que ce qui était se dit ce matin sur le fait qu'en didactique, on était moins que rien, enfin, c'est revenu plusieurs fois la nécessité très forte de la construction d'une légitimité scientifique très ambitieuse au démarrage des didactiques, n'a pas produit finalement une espèce de, je dirais, d'éclatement des didactiques, chacune dans les fêtes, chacune constituant son objet de la manière la plus propre possible sur le modèle des constitutions scientifiques des savoirs. Alors qu'est-ce que c'est qui fait la scientificité d'un savoir légitimé institutionnellement? C'est sa spécialisation et le fait qu'il délimite son espace. Ce qui fait par exemple qu'en français, la didactique de l'orthographe n'a plus rien à voir avec la didactique de la lecture, qui elle-même n'a rien à voir avec la didactique de la grammaire, puisque linguistiquement, ce sont des objets conceptuellement différents et qui doivent être problématisés dans des didactiques spécialisées. On pourrait dire la didactique de la géométrie, c'est tout autre chose que la didactique de l'algèbre, et on en parlait ce matin sur jusqu'où. Or, ce qui faisait la réalité du système d'enseignement considéré comme tel des 50 dernières années, c'était la solidarité des partis. Et qu'au moment même où se sont faites les grandes réformes des années 70, d'une certaine manière, ce qui a été détruit, c'est qu'en touchant à un enseignement spécialisé, en fait, on détruisait d'autres éléments dont il était solidaire dans l'ancien système, mais d'une certaine manière en aveugle, en pensant que, en gros, on avait affaire à des curriculums série où les maths étaient enseignées indépendamment de la physique, indépendamment de...
D'accord, bien sûr, parce que l'ensemble des conditions et contraintes sous lesquelles devaient fonctionner ces cursus de formation, ces corpus de connaissances, étaient pris en charge de manière extrêmement limitative. Pour prendre un exemple, quand j'étais collégien, au passage je signale à Jean-Louis, qui le sait mais qui l'a pas, qui l'a omis dans son exposé, que moi, comme étant élève pauvre, j'allais dans un cours complémentaire, et que dans un cours complémentaire, on faisait de la physique et de la chimie. Au collège, enfin au collège.
Alors, 6e, 5e.
Oui, non, non.
C'était la 5e.
C'est bien avant. Bien avant, 4e, 3e, on faisait de la physique et de la chimie. On avait de la chimie.
Comme vous préparez l'école normale,
etc. Oui, oui, tout à fait. Bon, mais enfin, passons. Je veux dire qu'il y a eu des expériences avant d'enseignement de ces matières. Alors, c'est peut-être pas bonne, mais en tout cas. Mais.
Cours complémentaire.
Oui, non, c'était en carrière. Oui, ce que je voulais dire, exemple typique en maths, d'erreur écologique. Au collège, on avait, pendant tout le 19e siècle, la notion de ligne proportionnelle, de points coupant un segment en partie proportionnelle, etc. Bon. Arrivent les maths modernes, qui au passage, Anne-Marie, disent, enfin, ça n'a pas été dit complètement, mais il n'y a plus algèbre et géométrie. La géométrie est de l'algèbre.
Bon,
par conséquent, la pesée est trop uniforme d'un ensemble d'un paquet de contraintes. Il n'y a pas eu vigilance didactique, là, par exemple. Il y a eu attention épistémologique, certes, mais pas vigilance didactique. Et moi, dès 1980, je disais qu'il faut les deux à la fois. Alors, on a enlevé les lignes proportionnelles, ce qu'on a pu exiger. Et bien sûr, la version moderne, c'était les barycentres. Mais les barycentres, on a dit, ça ne peut pas être au collège, c'est trop complexe. Donc on l'envoie au lycée. Alors, problème, si au collège, on a besoin de choses comme ça, alors il faut les conserver sous une forme ou une autre. D'accord ? C'est-à-dire, il y a un besoin, on va essayer de le satisfaire. Alors, et pour les spécialistes de l'évolution de l'enseignement des maths, ça a été mis en seconde, et puis en seconde, on l'a délesté un peu, on a dit on fera le barycentre que de 2 points, 3 points c'est beaucoup trop dur, et puis finalement on a enlevé tous les barycentres en seconde. Voilà. Autrement dit, un outil disponible pour les petits, pour faire des choses avec, c'est-à-dire des savoirs éventuellement utilisables, hein, d'accord, il faut toujours, sous bénéfice d'inventaire, ont été chassés sans qu'on regarde le tort que ça faisait. Moi, je ne suis pas partisan de ça, pas du tout, je n'ai jamais
essayé. Ça veut bien dire que les maths ont une position spécifique à l'intérieur du système scolaire que n'ont pas d'autres disciplines. Et qu'on est obligé d'en tenir compte, je ne sais pas si c'est dans la noosphère ou dans la vigilance didactique, mais ça fait partie du pas pareil. Il y a des choses pareilles, des choses pas pareilles.
Non, parce qu'en maths, on peut être très éclairé par des modèles issus d'autres domaines. Par exemple, des modèles cinématiques. Par exemple, des domaines de statique.
Pas pour tous les objets, pas pour tout.
Mais enfin, le fait de couper comme ça les savoirs, juste pour les faire exister structurellement, a évidemment beaucoup réduit leur utilisabilité, si je puis dire. Et évidemment, on a vu les problèmes que ça posait. Donc moi, j'insiste sur le fait qu'il y a beaucoup plus de plasticité qu'on ne pense parce qu'on a été habitué à apprendre telle chose en troisième et que tout à coup on l'apprendra. Il y a quand même des bons latinistes aujourd'hui qui découvrent le latin à l'université, qui deviendront des latinistes de métier. Ça existe, ça. Autrefois, on n'envisageait pas de faire du latin autrement que dès la sixième, il y a un siècle et demi. Donc il y a cette plasticité. En même temps, il y a des contraintes qu'il faut prendre en charge de manière assez large. Et c'est ce qu'on n'a pas fait.